A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir, bienvenue sur le plateau de Ça se dispute avec ce soir, face à face, Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Bienvenue, Philippe Doucet, bonsoir.
Bonsoir.
Très bien de vous avoir réunis tous les deux pour cette émission.
Une première.
Ravi de vous accueillir. C'est une première et elle va rester sans doute dans les annales, dans toutes les mémoires, parce qu'il y a des sujets d'actualité effectivement qui vont faire débat. Et notamment cette information, Lampedusa, plus de 7000 personnes en provenance d'Afrique du Nord ont débarqué mardi et mercredi donc sur cette île italienne. L'une des principales portes d'entrée vers l'Europe, c'est une crise migratoire qui ne fait que commencer, mais aussi une crise humanitaire. Les États membres de l'Union européenne peinent à s'entendre pour trouver des solutions à cet afflux record de migrants. L'Italie se sent abandonnée. Emmanuel Macron, lui, croit à une solution européenne. On l'écoute.
Notre devoir à tous européens, c'est de ne pas laisser l'Italie seule face à ce qu'elle vit aujourd'hui. Je veux le dire très sincèrement à tous nos amis italiens. Je considère que c'est la responsabilité de l'Union européenne tout entière d'être aux côtés de l'Italie. Mais ceci montre, si je puis me permettre cette remarque, que les approches strictement nationalistes ont leurs limites. Et que quand on parle de ce sujet, on est tous très heureux d'avoir la solidarité européenne. C'est bien l'Union européenne.
Qu'est-ce que ça veut dire, Geoffroy Lejeune, on est bien dans l'Union européenne quand pour l'instant la France, comme d'autres pays membres d'ailleurs de l'Union européenne, ne bouge pas et que l'Italie est obligée de gérer bon gré mal gré ces 7 à 8 000 migrants sur l'île de Lampedusa?
En fait, la phrase d'Emmanuel Macron, elle est un peu insupportable parce que profiter de cette crise pour parler des réflexes nationalistes et pour dire qu'ils ne sont pas légitimes,
c'est dans le jardin de l'Italie.
Sauf que le problème, c'est que qui a un réflexe nationaliste en l'occurrence, l'Allemagne qui ferme ses frontières, la France qui ferme ses frontières, et l'Italie est en train de supporter toute la misère qui veut se déverser en Europe. Donc moi, je veux bien, mais si vous voulez, je me sens solidaire en fait des Italiens. Je suis paradoxalement dans cet épisode plus européen qu'Emmanuel Macron. C'est pour vous dire donc à quel point... En fait, c'est une crise. Elle est intéressante. Elle permet de poser vraiment la question. On a tous vu les images de ces bateaux qui arrivent. J'avais compris que c'était maintenant 10 000 personnes qui étaient arrivées depuis quelques jours, donc, mais que ce soit 7 ou 10 000, ça revient au même. Elles sont très impressionnantes, ces images. C'est vraiment des bateaux qui arrivent. Toutes les 30 secondes, il y en a un qui arrive. De gens qui sont d'ailleurs que des hommes, hein, disons-le, pour une fois pour toutes, c'est pas des réfugiés qui fuient la misère, pas qui viennent des femmes et des enfants, etc. C'est essentiellement des hommes. Il y a des femmes et des enfants évidemment, mais pas que, enfin pas beaucoup. Et en fait, comme dit Nicolas Sarkozy, dans 30 ans, l'Afrique aura doublé population. Donc il y aura de plus en plus de candidats à ça. Et on ne pourra pas. On n'en est plus au moment où Rocard disait on peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est en fait on est au moment où il faut dire à ces gens qu'on n'en accueillera plus parce qu'en fait on en a beaucoup trop accueilli pour l'instant. Et la réponse, c'est pas une question de nationalisme ou pas, c'est que si l'Europe n'a pas une réponse très rapide, et moi je vous dis, je pense même qu'il est presque trop tard. C'est-à-dire que quand vous voyez ces bateaux arriver, qu'est-ce que vous faites ? Regardez l'état du droit aujourd'hui européen, la question des ports sûrs, etc. On s'est mis dans une nasse en réalité. Si aujourd'hui vous interceptez un bateau, vous devez non pas le ramener de là où il vient, parce que les ports tunisiens, etc. ne sont pas répertoriés comme des ports sûrs. Vous devez les amener dans un port sûr. Donc c'est les ports européens ou la Libye. Et la Libye, on sait qu'ils finissent par revenir. Bref, il faut sortir de ça. Il faut casser le carcan dans lequel on s'est mis. Et donc c'est évidemment une réponse européenne, mais c'est une réponse européenne, je pense, la seule de fermeture des frontières. Il faut envoyer un message à l'Australienne en disant c'est terminé, on ne peut plus, on est désolé, mais on ne peut plus.
Oui, c'est ça, ce n'est pas que l'Europe ne veut pas, c'est que l'Europe ne peut pas, Philippe Doucet.
Oui, enfin là, dans le cas, je suis quand même assez stupéfait d'entendre ce que j'entends, et j'ai lu aussi, là, je me suis demandé où j'étais, j'ai lu les propos de Marion Maréchal.
Qu'on va réécouter dans un instant.
Mais, franchement, Giorgia Meloni, elle a expliqué, elle a gagné les élections italiennes, qui est la Marine Le Pen pour nos téléspectateurs, hein, la Marine Le Pen italienne ou le Éric Zemmour italien ou le mélange des deux, peu importe. Hein, d'accord ? Expliquer aux Italiens pendant les élections, avec elle, on allait voir ce qu'on allait voir, les bateaux, ça allait arrêter, on allait punir les ONG qui allaient chercher les gens, ils allaient être interdits du port, etc. etc. Donc elle a expliqué qu'en gros, toute seule, elle allait arrêter cette vague, ces problèmes migratoires, je termine. Donc, en fait, et l'arrivée aujourd'hui, c'est pour ça que Macron joue un peu là-dessus, et on va revenir sur l'isolement. Donc, du coup, elle a expliqué qu'elle allait s'en sortir sans l'Europe, que l'Europe était la responsable de cette affaire-là, comme on vient d'entendre. La difficulté de ça, c'est que non seulement a fait pas mieux, entre guillemets, que les précédents, mais c'est encore pire, parce qu'il y a le double de migrants qui sont arrivés en
Europe. Échec de l'Italie, pas échec de l'Europe.
Donc là, échec absolu de l'Italie par rapport à ça. Et donc derrière, à la monsieur Salvini, qui est son aile droite, encore si je puis dire, dans ce dispositif, qui dit, bah voilà, il faut les mettre. C'est un acte de guerre. On fait quoi sur un acte de guerre par rapport à ça? Le problème, c'est que face à cette difficulté migratoire, à ces problèmes migratoires qui existent par rapport à ça, face à ces difficultés-là, il ne faut pas arriver avec des idées simples parce que le sujet, il n'est pas simple. Il n'est pas simple parce qu'il y a les problèmes migratoires, il y a les problèmes démographiques, il y a les problèmes d'État failli, il y a les problèmes économiques, il y a les problèmes sociaux dans toute une série de pays. Et là, en Tunisie, pourquoi il y a autant de monde d'un seul coup? Parce que la Tunisie, où il y a beaucoup de migrants qui se sont trouvés bloqués, et bien aujourd'hui, compte tenu de la politique du gouvernement tunisien, où un certain nombre de migrants se sont fait taper, secouer, mis dans le désert, bah là, il y a une fenêtre de tir météorologique où ils y sont allés. Donc le sujet, ce qui manque aujourd'hui, c'est bien parce qu'on manque, c'est pas parce qu'on a trop d'Europe, comme Giorgia Meloni l'a dit, c'est parce qu'on n'en a pas assez, c'est qu'on n'a pas d'une politique migratoire européenne, c'est ça notre difficulté.
Rappelons que l'île de Lampedusa est à 150 km de la Tunisie, donc géographiquement plus proche de la Tunisie que de la botte italienne.
Non mais alors moi je suis absolument pas d'accord avec ça. En fait, premièrement, c'est l'Europe est le problème dans cette histoire. Pourquoi? Je reviens sur Mélanie, ce que vous avez développé comme argument. En fait, elle a la volonté évidemment de limiter l'immigration. Et pourquoi elle ne peut pas le faire? Elle est otage de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Italie est dépendante financièrement de l'Union européenne. Si l'Italie décide de sortir d'un certain nombre de mécanismes, de s'affranchir de certaines règles imposées par l'Union européenne, comme par exemple ce que je disais sur la question des ports sûrs, mais en fait, le seul pays qui
a... Pourquoi elle a menti pendant les élections italiennes?
Elle n'a pas menti. Elle est arrivée sur cette promesse-là, et ensuite, elle se retrouve dans une situation, c'est un scandale démocratique, pardonnez-moi, de réaliser qu'aujourd'hui, une dirigeante souveraine d'un pays souverain ne peut pas mener la politique pour laquelle elle a été élue par son peuple, parce que l'Union européenne lui fait une menace financière. C'est ça l'histoire. C'est ça qui se passe.
C'est une menace financière, mais parce que c'est quoi la menace financière? L'Union européenne propose de l'argent, des fonds d'investissement considérables, donc c'est des dons ou des prêts de longue durée. Donc, effectivement, face à des dons de l'Europe, soit on dit on n'en veut pas et puis on fait sans l'Europe, ça peut être un choix, soit on les accepte. Et ça veut dire qu'il y a effectivement un certain nombre de contraintes.
Sauf que sur la question de l'immigration, en fait, on parle d'un côté de la gestion économique d'un pays, de l'autre la gestion de l'immigration. Sur la gestion économique, elle est dépendante de l'Union européenne, dépendante complètement. Moi, je connais beaucoup d'Italiens, y compris des Italiens très à droite dans le parti de Giorgia Meloni ou de Salvini, qui sont très européens. C'est amusant, il n'y a pas de sentiment souverainiste chez eux. En revanche, par contre, le seul pays en Europe qui réussit à avoir une gestion de sa politique migratoire, c'est le Danemark. Pourquoi? Parce qu'au moment de Maastricht, ils ont voté contre, et on leur a dit, ils ont revoté, votez pour, mais vous serez un peu débarrassé des questions des contraintes sur la gestion de l'immigration. Et le problème aujourd'hui, c'est une absence de souveraineté totale que les pays membres de l'Union européenne ont. Et comment vous dire? Moi, je j'ai aucun problème, parce que je comprends bien, si vous voulez, que c'est une question européenne au sens où les frontières sont européennes, elles sont extérieures. Aucun problème. Mais le problème, c'est que l'Union européenne veut favoriser l'immigration. L'Union européenne vote des projets pour répartir l'immigration.
Pardon, mais dans l'Union européenne, c'est pas un être qui vit dans la... Dans l'Union européenne, vous avez la Pologne qui compte logique migratoire. Vous avez la Hongrie qui compte logique migratoire. Vous avez la Tchéquie qui compte logique migratoire. Vous avez la Slovaquie qui compte logique migratoire. Vous avez l'Italie qui compte logique migratoire. Ça fait quand même... Prenez l'exemple du Danemark, vous donnez là-dessus. Vous voyez bien quand même que ça fait potentiellement, si je suis votre ligne, ça fait du monde. La réalité aujourd'hui, la réalité aujourd'hui dans cette affaire-là, l'Union européenne, elle est pour ce que les conseils.
L'Union européenne, elle vote des choses.
Oui, elle vote des choses, mais c'est le Conseil européen, c'est les 27 présidents ou présidents du Conseil qui déterminent autour. Donc, à un moment donné, Orban, par exemple, il ne veut pas accueillir d'immigrés. Il n'accueille pas d'immigrés, il a même fait un mur.
Orban, justement, la Hongrie a été sanctionnée pour sa politique migratoire.
Elle a été sanctionnée sur les questions d'état de droit, comme la justice, comme la Pologne sur les questions d'état de droit, de justice.
La Pologne sur l'immigration aussi. En fait, l'immigration est un sujet aujourd'hui central en Europe. Grosso modo, pour résumer, les peuples sont hostiles ou rétifs, pour le dire plus poliment, et les dirigeants sont pour. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que, par exemple, moi, je voudrais bien, si vous voulez, puisque toutes nos frontières sont extérieures, évidemment, je voudrais bien que l'Union européenne se dote d'un programme pour empêcher les migrants d'arriver, c'est-à-dire des garde-côtes, refouler les bateaux, arrêter avec cette
législation. Attendez, mais à un moment donné, pardon, mais il faut être cohérent. D'un côté, vous avez Jordan Bardella qui vous explique, là encore aujourd'hui, que lui, il va tout faire comme Giorgia Meloni, on va arrêter Idi Amin Macron, on en accueille zéro, pas de solidarité européenne, on en accueille zéro. Non, donc lui, il dit blanc. Et Marion Maréchal, tout ce monde-là était dans la même boutique il y a encore 3 ans, finalement, nous dit d'un seul coup, nous dévoile son amour pour l'Europe. À un moment donné, il faut savoir.
En effet.
Ou on est sur un programme nationaliste, c'est parfaitement respectable, ou on est sur un programme où on se dit, non, l'enjeu est au niveau européen.
Un petit mot de Geoffroy Lejeune, et ensuite, j'aimerais qu'on écoute Marion Maréchal également, qui était à Lampedusa aujourd'hui.
C'est pas une question idéologique de nationaliste ou européen. C'est une question de comment on empêche des gens de venir chez nous alors qu'on n'a pas envie qu'ils viennent. Donc. Moi, je vous redis cet argument-là, mais des bateaux qui arrivent aujourd'hui, vous ne pouvez pas les refouler de là où ils viennent. C'est une aberration pour le sens commun. C'est-à-dire qu'un bateau qui arrive de Tunisie, vous ne pouvez pas l'intercepter, le ramener en Tunisie. Les règles européennes vous obligent à l'amener à Marseille, à Nice, à Lampedusa.
Mais il n'y a pas de solidarité européenne pour accueillir ces migrants dans d'autres pays.
Oui, mais par exemple, pourquoi il n'y a pas de solidarité européenne aujourd'hui, même si Emmanuel Macron a changé un peu par rapport à ce que Gérald Darmanin évoquait sur la frontière à Vintimille? Pourquoi les Allemands y ferment? Les Allemands y ferment pour deux raisons. Un, parce qu'ils considèrent que l'Italie n'a pas appliqué la règle de solidarité européenne sur ce qu'on appelle les duplinés. Certes, l'Italie aurait dû reprendre des gens, elle ne l'a pas fait. Donc ils disent, vous êtes sympa, Giorgia Meloni, ils le disent plus poliment qu'Emmanuel Macron. Mais ils disent, bon, en gros, tu nous as envoyé balader. Donc tu imagines bien que quand on a les soucis, on te renvoie la balle. Et deuxièmement, contrairement à ce que vous écrivez, c'est vrai qu'en Allemagne, il y a aussi un débat, comme en France, sur les questions migratoires. Et que, effectivement,
parce que c'est
la droite
le pays
de
qui a accueilli le plus de migrants voilà. Aussi l'année dernière,
coup,
l'Allemagne.
Oui, mais il y a un débat en Allemagne avec l'AFD, etc. Donc du coup, Olaf Scholz, il fait aussi attention en interne. Donc il y a aussi ce double jeu. Mais tout le monde envoie la balle à Giorgia Meloni. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez
passage,
les baffes, et ben vous avez le retour
Monsieur
des baffes.
Monsieur Salvini, alors c'était prévu au programme avant les événements de Lampedusa, va rencontrer dimanche Marine Le Pen. Donc bon, sans doute vont-ils échanger sur ce sujet. Mais Marion Maréchal s'est rendue, je le disais, à Lampedusa aujourd'hui. La vice-présidente de Reconquête estime que l'Europe a abandonné l'Italie. Écoutez.
Ce que nous voyons là, ça n'est que le début. Ce n'est même pas le prémisse de la crise migratoire à laquelle nous avons assisté dans les décennies à venir. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes 500 millions d'Européens dans l'Union européenne. Les Africains sont plus d'un milliard, ils seront plus de 2 milliards en 2050. Donc c'est un véritable défi. Et l'autre sens de ma présence ici, c'est un message de soutien au peuple italien, de soutien au gouvernement italien qui, je vous le dis, se sent totalement abandonné par l'Union européenne et aussi par la France dans la gestion de cette crise.
Votre sentiment
Je sais pas, moi je sais.
Déjà le fait qu'elle se rende à Londres.
Oui, mais bon, elle fait de la politique, elle en fait intelligemment de son point de vue à elle, elle donne un signal. Bon, très bien, elle joue sa partie. Mais je vous propose que la prochaine fois, vous mettez Marion Maréchal d'un côté, Jordan Bardella de l'autre, puis qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Tout ce monde-là vient de la même famille politique et tient deux discours différents. Le discours du Front National, c'est de dire toujours, comme avant, on peut faire un mur dans l'eau et empêcher les gens de venir, parce qu'avec nous, vous allez voir ce que vous allez voir. Et là, d'un seul coup, Marion Maréchal se découvre européenne. Alors certes, elle a des attaches familiales importantes en Italie. Je crois que son conjoint
plus
est
proche de l'Italie
italien. Bon, mais très bien. Ouais. Mais d'un seul coup, elle vient de dire l'inverse. Si devant une partie des Français qui sont plutôt d'accord avec elle, découvre qu'elle a envie d'accueillir des réfugiés, des migrants qui arrivent en Italie, je ne suis pas sûr qu'ils vont être d'accord. Mais à un moment donné, il faut choisir. Ou on se dit, la France avec nos petits bras musclés, on monte des murs et on va empêcher les gens de venir. Ou on se dit qu'on a un sujet européen avec les difficultés autour de ça qu'on ne mésestime pas. Et à ce moment-là, on a une politique européenne, c'est-à-dire qu'on a un vrai Frontex, on a des accords avec les pays comme ils ont essayé d'en signer avec la Tunisie ou avec d'autres. On a la question de comment on gère la Turquie. Enfin, on voit bien les frontières et on voit bien les chemins. Donc on sait bien qu'on a
monté des murs en France physiquement, en tout cas, ça paraît impensable, Geoffroy Lejeune.
Je ne sais pas si ce serait surtout utile en réalité, mais vous raisonnez comme si il fallait qu'on n'avait pas le choix d'accueillir ces gens ou pas. On a le choix d'accueillir ces gens. La question politique qui se pose aujourd'hui, c'est vous caricaturez
pas la capacité,
disant,
Geoffroy Lejeune.
La capacité de quoi?
D'accueillir ces gens.
Autrement, pourquoi Mélanie? Pourquoi
Mélanie
était dans son
programme?
Les centres
Mélanie, d'accueil.
Je réponds. Giorgia Meloni, elle avait prévu de repousser les bateaux. Pourquoi elle le fait pas?
Je réponds à vos deux questions. Je suis d'accord, Lionel, avec ce que vous venez de dire. La capacité, ça fait très longtemps qu'elle est saturée, évidemment. Mais vous caricaturez en disant des murs dans l'eau. Le sujet politique qui va se poser dans les décennies qui viennent, avec un continent africain qui va doubler de population en 20 ou 30 ans, c'est ça. C'est comment on réussit à faire en sorte que ces bateaux n'arrivent pas chez nous. Comment on fait?
Bah, comment on fait, vous avez la...
Il faut dissuader les gens de partir, déjà, pour commencer.
Comment, à un moment donné, quand les gens ils sont prêts à mourir, parce que la Méditerranée, quand même, il y a des migrants qui sont accueillis, mais ils ne sont pas tous accueillis, parce qu'il y en a plein qui sont au fond de la Méditerranée. Donc, on voit bien... Ce qui est intéressant, c'est de comparer, par exemple, par rapport à ce qui se passe à la frontière américaine. La frontière américaine, il n'y a pas d'eau, ils ont mis des murs, des grillages, des doubles grillages, et tout ça. Et les gens sont prêts à passer, même des Africains vont... en Amérique latine, pour passer la frontière pour rejoindre les États-Unis. Pourquoi ? Parce que vous avez le même problème en Amérique latine qu'en Afrique. Quand vous avez des gens qui crèvent de faim, où c'est un bazar sans nom, des États complètement avec de l'insécurité, des narco-États, mais... à un moment donné, les gens ils se disent « mais c'est quoi mon avenir ?» Donc on va vers des pôles de stabilité, des pôles de développement, les États-Unis d'un côté, l'Europe de l'autre. Parce qu'ils ne viennent pas ni en Italie ni en France. C'est l'Europe où ils se disent, même avec toutes nos difficultés, nos pauvretés, ici, on se fait pas. Mais si on peut vivre, quoi. Voilà.
Si on poursuit votre raisonnement, en fait, on va déverser l'Afrique dans l'Europe.
Non, mais vous avez la question du développement en Afrique. Vous avez la question de la stabilité des États africains.
C'est un peu plus viable, pardon.
Pardon. Mais enfin, on a essayé avec la difficulté qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, on a empêché à un moment donné que le Mali tombe sous les djihadistes pour qu'il y ait un État malien.
Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et il n'y a pas un lien de cause à effet.
Donc, voilà. Donc, on essaye que ces États-là tiennent. On essaye de soutenir les logiques démocratiques. Parce qu'on sait très bien qu'il faut.
Oui, mais c'est la double peine. On essaye ça et ça marche pas. Et donc, on récupère l'immigration.
Il y a des succès quand en Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui se développe. Le Sénégal, c'est des pays qui se développent. Il y a un succès de la Côte d'Ivoire. On n'en parle pas parce que en Afrique, on parle toujours des choses.
Majoritairement, ce sont des Ivoiriens et des Guinéens qui.
Non, mais là, par exemple,
des Soudanais. Oui, les Égyptiens aussi, voilà. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens.
Vous avez une guerre terrible au Soudan, donc vous avez ça. Donc les Soudanais vont où aujourd'hui, l'Éthiopie ils vont où ? Vous voyez, tout ce monde-là se déchire.
À la déclaration de Marion Maréchal que vous avez entendue, réponse d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, qui était l'invitée de CNews aujourd'hui, et qui estime que c'est de la politique politicienne et que Marion Maréchal fait de la récupération. Écoutez.
Permettez-moi de dire mon indignation par rapport à l'attitude de Marion Maréchal Le Pen. Je le dis parce que vous l'aurez sur votre plateau tout à l'heure. On ne fait pas de la politique.
De Lampedusa.
On ne fait pas de la politique de manière charognarde. On ne se met pas en scène devant des malheureux qui ont traversé la Méditerranée, comme vous le dites, au péril de leur vie.
Politique charognarde. La sémantique est tout de même assez violente.
Honnêtement, tout ce qui est excessif est insignifiant. Je suis désolé, l'immigration, c'est un sujet très important.
Ah oui ?
L'immigration, Lampedusa, c'est un sujet très important. Et Marion Maréchal a raison de se rendre sur place pour comprendre, pour voir, pour diagnostiquer, pour analyser et pour proposer quelque chose. Et ça ne me choquerait pas que quiconque d'autre le fasse, Mélenchon, ouais. Enfin bref, peu importe.
Gérald Darmanin.
Gérald Darmanin, mais c'est même son métier de le faire, en fait. Agnès Pannier-Runacher, honnêtement, la réponse d'Agnès, c'est très déconnecté en réalité. La réponse de la ministre est très déconnectée déjà de ce que ressentent les gens par rapport à... c'est un sujet d'angoisse, mine de rien, quand même, l'immigration. Et la manière dont elle accuse de récupération. Récupération, c'est le nouveau mot pour interdire aux gens de parler de sujets qui sont soi-disant gênants. Honnêtement, elle est à côté de la plaque. Pardon.
Le terme, c'est aussi charognard, Philippe Doucet. Non, mais ça veut dire tout simplement qu'on se rend sur place parce qu'il y a aussi des gens qui sont en danger, en urgence humanitaire, c'est-il.
Oui, mais peut-être. Bien sûr qu'il y a de l'urgence humanitaire. Bien sûr que la Croix-Rouge italienne s'est fait complètement déborder. Vous avez un centre d'accueil qui doit faire 400 places. Ils sont arrivés à 6000. Donc, c'est même pour les Italiens, même pour la population italienne de Lampedusa. C'est très compliqué. Après, derrière, la politique, elle se fait aussi dans l'action, même dans la récupération. Ça ne me dérange pas. Marine Le Pen, elle y avait été à Lampedusa de mémoire. Elle y va. D'autres vont ailleurs. D'autres vont au Mont-Saint-Michel. D'autres vont. Donc, on fait la politique sur des lieux géographiques. Donc, je ne partage pas par rapport à ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe, au-delà du malheur de tous ces pauvres gens, c'est que finalement, on voit bien qu'au sein de la droite ou de l'extrême droite française, il y a une césure qui se fait entre ceux qui se disent l'enjeu. Il se passe au niveau européen et on a un sujet, ce qui est le cas de Marion Maréchal, et ceux qui continuent de nous faire les Giorgia Meloni français en disant vous allez voir avec nos petits bras musclés ce qu'on va faire. L'échec de Giorgia Meloni, c'est un échec que tous les nationalistes européens devraient se poser la question, parce que du coup, on voit bien que tout seul face à la. C'est un défi. Et donc, du coup, et les gens, ils ne vont pas en France, ils ne vont pas en Italie, ils vont en Europe parce que l'Europe apparaît comme un pôle de stabilité, un pôle de richesse, un pôle où on peut élever ses enfants dans une sécurité et où on peut manger tous les jours.
Entre vous corroborez les propos d'Emmanuel Macron qui dit que les politiques nationalistes, je le cite, on l'a entendu tout à l'heure, on leur
dit. Oui, parce que moi, je suis convaincu, on peut avoir le débat sur ce devrait être la politique d'immigration européenne. On peut discuter les ports sûrs, pas les ports sûrs et tout, mais à un moment donné, quand les gens ils passent par la Turquie, puis côté de la Grèce en Europe, ils passent par l'Italie. Avant, ils sont passés par l'Espagne. Le Maroc a joué, a ouvert ses frontières pour laisser passer parce qu'il y avait le problème du Sahara occidental, etc. Donc, on sait très bien qu'à un moment donné, si on laisse les Espagnols tout seuls, les Italiens tout seuls, les Grecs tout seuls, de toute façon, à la fin, les gens, ils bougent. La preuve, on les retrouve à Calais pour passer en Angleterre. Donc, on voit bien les mêmes là qui sont à Lampedusa. Peut-être que dans 4 semaines, ils sont à Calais pour passer en Angleterre.
Pour beaucoup, Geoffroy Lejeune, c'est venir en France qui les intéresse. Ceux qui ont été interrogés, qui sont sur l'île de Lampedusa aujourd'hui, qui sont en général plutôt francophones, ont l'objectif de regagner la France pour retrouver du travail et pour gagner de l'argent.
Premièrement, Eldorado. Premièrement, ils sont francophones. Deuxièmement, ils viennent parfois chercher du travail, souvent chercher des prestations, parce qu'on est aussi les plus généreux du monde. Donc techniquement, moi, si j'étais migrant, je ferais mon benchmarking et j'irais en France, évidemment. Et vous avez des soins, vous avez des... Mais c'est évident.
Non, mais les gens, ils ne vont pas risquer leur vie. Il y a peut-être 10% des gens qui finissent au fond de la Méditerranée pour des prestations.
Non, il n'y a pas 10% des gens qui meurent.
Je suis pas sûr qu'on fasse le recensement de ceux qui sont morts. En tout cas, ils prennent un risque.
Fait le recensement et il n'y a pas 10% des gens qui meurent. Premièrement.
Si vous êtes à 5%, c'est considérable. Mais quand vous prenez ce risque-là, c'est pas pour vous dire je vais toucher le reste à demain. Les gens, ils ont envie de construire leur vie. Voilà, aux États-Unis, il n'y a pas le RSA, il n'y a pas les APL, il n'y a pas tout ça. Combien de gens sont prêts à prendre des risques énormes à traverser le Mexique, les narco-États, se faire inquiéter pour y arriver là-bas?
Pour beaucoup,
il n'y a pas le RSA.
À Lampedusa, ils n'ont pas eu à payer. Bon, on paye la traversée, là, ça n'a pas été le cas.
Oui, mais parce que là, le gouvernement tunisien a dû se dire, allez,
mais la traversée a été offerte, en quelque sorte. Voilà. Geoffroy Lejeune.
J'ai discuté cette semaine avec François Delabarque, grand reporter à Paris Match, et qui a fait la traversée de la Méditerranée avec des migrants il y a quelques mois, qui m'a raconté un peu comment ça se passait. Il m'expliquait que les gens de la Libye, où les Africains sont considérés comme des esclaves ou des sous-hommes qui sont envoyés sur des rafios pourris où il y a des naufrages, etc. Là, il y a des morts. En revanche, il m'a expliqué que la Tunisie, c'est une croisière quasiment. Oui, on a un peu serré, etc. Mais il y a zéro sujet. C'est une vingtaine d'heures de navigation. Et il me racontait que c'était pour lui extrêmement tranquille. Donc, il a fait le trajet de la Tunisie à Lampedusa. Donc, contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas 10%. Non, moi j'y étais pas, mais lui il me disait c'était assez tranquille, etc. J'ai parlé de la Tunisie. En l'occurrence, là on parle de la Tunisie, à Lampedusa, et c'est pas très long, et voilà, c'est pas très dangereux, etc. Premièrement. Ensuite, deuxièmement, il y a un scandale, il y a un vrai scandale, c'est que l'Union européenne, en fait, ce que vous décrivez en fait en disant Meloni n'y arrive pas, les nationalistes devraient se poser des questions, etc. Je répète. Elle n'y arrive pas parce qu'elle est exsangue financièrement. L'Italie est un pays, entre guillemets, pauvre, moins pauvre que d'autres, mais quand même pauvre, qui est dépendant de l'Union européenne pour ses finances publiques. Et il y a un commissaire européen au moment des élections qui a expliqué, alors c'était à l'époque de Salvini, mais qui a expliqué que si les Italiens votaient mal, les marchés se chargeraient de leur faire sentir qu'ils avaient mal voté. Donc il y a une...
Oui, mais sur la question...
Attendez. Ce que je veux juste vous dire, c'est que, en fait, vous pourriez aussi, au lieu de dire « Ah, Meloni n'y arrive pas, c'est horrible », dénoncer un scandale démocratique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui gagnent les élections assez largement, en tout cas elle est en tête assez largement, et des gens non élus, des commissaires européens non élus, qui ne représentent personne dans ce continent.
Non élus, mais ils sont nommés par des gens élus. Thierry Breton, quand il est nommé par la France, il est pas nommé par le pape, il est nommé par Emmanuel Macron. Le commissaire italien, il est nommé par un gouvernement italien. Et le Conseil européen, en fait, c'est les chefs d'État. La Commission, dans le système, elle est, entre guillemets, aux ordres du Conseil européen, et les chefs d'État ou de Premier ministre, c'est eux qui pilotent.
On conclut vraiment en quelques secondes.
En un mot, je pense que Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, n'a aucune leçon, aucun ordre à donner aux Italiens qui sont un peuple souverain et qui démocratiquement ont élu Jean-Jacques
Mélenchon. Vous voulez quoi? Parce que moi je veux bien qu'on ait une souveraineté européenne, je veux bien qu'on ait un État européen avec une logique démocratique européenne.
Vous parlez aussi peut-être de l'inertie de la gouvernance de l'Union européenne.
Surtout nos désaccords. En fait, par rapport à ça, c'est des accords. On aurait pu se mettre d'accord sur les vaccins, on aurait pu se mettre d'accord sur les financements.
Absolument.
Faire bouger les lignes.
On se retrouve dans quelques instants avec Philippe Doucet et Geoffroy Lejeune. Les débats sont très très intéressants, je tiens à vous le dire. Nos téléspectateurs se régalent. On marque une pause, on revient très vite après le flash et d'autres thématiques sur CNews. À tout de suite. On se retrouve avec Philippe Doucet et Geoffroy Lejeune dans Ça se dispute sur l'antenne de CNews dans quelques instants. Nos débats, bien sûr, mais d'abord un point sur l'actualité. Simon Guilin, bonsoir Simon.
Bonsoir à Charles Lionel et bonsoir à tous. Face à l'afflux de migrants sur l'île de Lampedusa, Emmanuel Macron défend un devoir de solidarité européenne avec l'Italie. Près de 10 000 migrants en provenance d'Afrique sont arrivés sur place ces derniers jours. soit l'équivalent de la population locale, située à moins de 150 km des côtes tunisiennes. Lampedusa est l'un des premiers points d'escale pour les migrants qui traversent la Méditerranée. Emmanuel Macron, qui s'est également exprimé sur la situation au Niger aujourd'hui, le chef de l'État a déclaré que l'ambassadeur de France était pris en otage par les militaires au pouvoir. Il n'a plus la possibilité de sortir, on refuse qu'il puisse s'alimenter, a affirmé le président de la République. Et puis face à la hausse des cas de Covid, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a décidé d'avancer la campagne de vaccination pour les plus fragiles de 2 semaines. Elle devait initialement débuter le 17 octobre, en même temps que celle de la grippe. Elle débutera finalement le 2 octobre prochain.
Merci Simon, on vous retrouve à 22h pour un prochain point sur l'actualité. On se retrouve donc pour Ça se dispute avec Philippe Doucet, avec Geoffroy Lejeune et cette nouvelle thématique, Emmanuel Macron qui lance une collecte nationale pour sauver les églises en ruine en France. Il l'a annoncé ce midi à Semur en Auxois, en Bourgogne pour le début des journées du patrimoine, c'est tout au long du week-end. Il a aussi justifié sa présence lors de la messe, la future messe du pape François la semaine prochaine à Marseille. Écoutez.
Quand nous recevons en France un chef d'État qui est le pape, qui vient en effet donner une messe au stade Vélodrome, je considère que c'est ma place d'y aller. Je n'irai pas en tant que catholique, j'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque. J'irai par respect et courtoisie, et j'y aurai ma place, comme d'ailleurs nombre de mes prédécesseurs ont pu y aller. Je n'aurai moi-même pas de pratique religieuse lors de cette messe. Il m'arrive d'aller à des offices religieux, d'ailleurs, quelle que soit la religion, pour des événements douloureux ou des événements plus heureux.
Donc pas d'orientation religieuse ou de prosélytisme ou quoi que ce soit. Philippe Doucet, là c'est un chef d'État qui va rencontrer un autre chef d'État. C'est le pape et le chef d'État du Vatican en effet. Mais entre les églises à restaurer et le fait que le président se justifie pour sa présence samedi prochain, on a l'impression qu'Emmanuel Macron a un pied sur la laïcité et un autre sur la religion, qu'il est un peu à cheval ou à califourchon.
En fait, il y a deux sujets. Alors, pour nos téléspectateurs, la loi de 1905 est un peu compliquée, donc je prends 30 secondes pour l'expliquer. Sur la laïcité. Toutes les lois, toutes les églises construites avant 1905 sont sous la responsabilité des mairies. Donc moi, quand j'étais maire d'Argenteuil, il y a une basilique, eh bien, à un moment donné, le curé m'a dit, voilà, sous l'autel, la moquette est abîmée, le chauffage, les vitres, voilà, c'est les mairies qui payent. Jusqu'en 1905. Après 1905, il y a une autre église, petite église d'Argenteuil, ils ont des problèmes de vent, c'est eux qui payent. D'accord ? Bon. Donc en France, il se trouve que restaurer des églises, ça coûte très cher, parce que c'est des monuments, il y a des bâtiments historiques et tout ça. Et donc il y a plein de communes, petites communes, qui n'ont pas obligatoirement beaucoup d'argent, mais qui ont des joyaux architecturaux. Donc il n'y a rien qui me choque que l'État aide des communes, surtout qu'en plus là c'est un espèce d'appel aux dons, pour accompagner ce qui est notre patrimoine historique, et en fait pour aider des communes qui n'arrivent pas à financer ce qu'elles doivent financer, c'est-à-dire les travaux de restauration ou d'entretien des églises d'avant 1905. Ça c'est la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Ça c'est une chose. Sur Marseille. Donc Marseille, la loi dit quoi ? Toute autorité publique peut aller assister à un office religieux. Moi, en tant que maire, par exemple, la loi impose au maire de donner les clés de l'église au curé, à l'évêque. Donc, à Argenteuil, j'ai fait des remises de clés. Bon, il se trouve que l'évêque, il arrive avec la mitre, la crosse, et tout ça. Donc, effectivement, j'en peux se dire, le maire, bon, oui, donc, et on est rentré dedans. Mais j'ai aussi assisté à des Yom Kippour pour la communauté juive, et même chose pour le ramadan, les ruptures de jeûne, etc. Bon, mais par contre, quand moi je suis dans l'église, alors il se trouve que je suis athée, mais les autorités politiques ne doivent pas montrer de signes religieux. Ils y sont en tant qu'autorité politique, donc vous y êtes en tant que maire, ou en tant que député, ou en tant que préfet, vous n'y êtes pas en tant que Philippe Doucet, ou X ou Y. Et donc, vous ne devez pas montrer de signes. Jurisprudence, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, la messe à Reims pour la réconciliation franco-allemande, où là, de Gaulle, chrétien devant l'éternel, si je puis dire, assiste à la messe, mais ne communie pas, alors que quand il était à titre personnel à Colombey les deux églises, il communiait. Ça, c'est ce qui se passe. Là où Emmanuel Macron, en droit, si je puis dire, il a le droit d'aller à Marseille par rapport à ça. Là, il joue sur les lignes. Un, à Marseille, c'est pas le président du Vatican qui a accueilli Hein, ce n'est pas le chef de l'État du Vatican, parce qu'à ce moment-là, lui, en tant que chanoine de Latran, je rappelle que quand vous êtes président de la République française, vous êtes chanoine de Latran. Latran, c'est une église historique, très ancienne, une des premières églises chrétiennes à Rome. Donc, il se trouve que la France est chanoine, le président français est chanoine de Latran. Donc, en tant que chanoine de Latran, vous rencontrez le pape. Donc ça, vous avez cette composante-là. Là, le pape, il ne vient pas en France. Il vient à Marseille, et uniquement à Marseille. Lui-même, c'est lui-même qui le dit. Donc, je viens à Marseille, je ne viens pas en France.
Oui, mais
donc,
en France.
Bien sûr, mais le chef de l'État, de ce point de vue-là, je pense qu'en droit, il a raison d'y aller. Politiquement, ça me paraît maladroit. Parce que le signal qu'il envoie après avoir fait un élément sur l'abaya, loi de 2004, non signe religieux à l'école, je pense que quand vous n'êtes pas un spécialiste de la laïcité, et en France, il n'y a pas beaucoup de spécialistes de la laïcité, vous pouvez vous dire d'un côté, nous, Français de confession musulmane, on est pointés du doigt, et en sens inverse, il va assister à une cérémonie religieuse. Oui. De l'autre côté, vous voyez bien d'ailleurs qu'il prend précaution de dire qu'il a fait des ruptures de jeûne ou qu'il va...
Il ne participera pas à l'office religieux du pape, il va juste assister à cette...
Si, il assiste à la messe.
Il assiste à la messe, mais il n'y participe pas.
Non.
Il n'y aura pas d'office religieux, il ne va pas prier.
Non,
il ne...
mais...
Voilà.
Non, mais bien sûr, donc légalement, il va respecter la légalité de la loi, oui. Politiquement, il envoie un signal à l'électorat conservateur, c'est pour ça qu'il le fait. Politiquement, parce que si on savait que c'était quelqu'un qui était croyant, vous voyez, en plus, bon, c'est pas le cas. Je rappelle quand même qu'avant De Gaulle, Clémenceau, lui-même, en tant que président du Conseil, n'assistait à aucun office religieux.
On ne sait pas d'ailleurs officiellement quelles sont les croyances ou quelle est la foi d'Emmanuel Macron. Le diagnostic, mais en a-t-on vraiment la certitude, Geoffroy Lejeune?
On ne sait pas grand-chose sur Emmanuel Macron en réalité.
Oui, sur ce point-là, en particulier. Non, mais ce serait un élément intéressant.
On
ne
sait pas trop sa colonne vertébrale, c'est un peu tout mou la colonne.
Ce serait un élément intéressant. Vous voyez, vous nous avez confié tout à l'heure que vous étiez athée. Si vous vous rendez à la messe du pape, voilà, on ne vous accusera pas de participer ou de contribuer à l'office religieux. En fait, en l'occurrence, pour Emmanuel Macron, s'il est agnostique, ça peut être du même acabit.
Il en a déjà parlé et c'était incompréhensible. Un peu comme sur le reste, sur la politique, etc. Honnêtement, c'était une forme de charabia un peu verbeux pour ne rien dire à la fin. Donc, bon, mais peu importe. Fermons cette parenthèse sur Emmanuel Macron. C'est parfait ce que vous avez dit. Moi, j'ai rien à ajouter. Mais par contre, j'ai beaucoup de points de désaccord et donc je peux répondre point par point. Premièrement. Bon, sur le signal politique adressé aux conservateurs, les conservateurs français, en tout cas, ne sont pas des fans hystériques du pape, parce que il est, en fait, c'est votre pape à vous plutôt que le mien.
Disons que c'est le pape qui rappelle les évangiles, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain, tu laisses pas bouger les gens dans la Méditerranée. Pareil, c'est même un pape qui fait de la politique, non, il rappelle les évangiles.
Non, il dit surtout, il faut accueillir toute la misère du monde et il prend des positions politiques.
Évangiles, ça, non ?
Non, les évangiles, c'est pas la France insoumise. Excusez-moi, ça n'a rien à voir même.
Vous voulez dire que le pape est de gauche ?
Le pape est carrément de gauche, clairement de gauche, mais d'ailleurs, enfin, c'est libre à lui, hein, c'est pas un problème. Mais juste, les catholiques dont je fais partie font la part des choses entre le chef de l'Église et les positions politiques personnelles de quelqu'un qui a grandi en Amérique du Sud, qui a été très proche des communistes là-bas, etc. Et donc, moi, ça ne m'empêche pas de dormir, mais bon, il faut le dire quand même. Ensuite, ce que vous avez rappelé parfaitement la laïcité, et ce qui est intéressant dans la polémique qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait, les gens ne comprennent plus la laïcité. En fait, la présence du président à proximité du pape, ils vivent ça comme une atteinte à la laïcité. C'est assez amusant. Donc, je pense qu'en fait, aujourd'hui, dans l'esprit commun, les gens pensent que laïcité, ça veut dire absence des religions, alors que c'est pas ça du tout. Et ils pensent que ça veut dire athéisme. Et en fait, ça veut pas dire ça non plus du tout. Donc moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit quand vous avez rappelé la lettre, l'esprit. Mais il y a une confusion énorme aujourd'hui dans notre pays et qui donne des débats complètement hystériques. Et ensuite, ce que je trouve intéressant, vous avez parlé de l'abaya, vous avez raison d'en parler. Parce que c'est vrai qu'il y a dans la même séquence, entre guillemets, en quelques semaines, l'interdiction de l'abaya, la présence à la messe, etc. Et au fond, je pense que ces deux questions ne relèvent pas de la question de la laïcité. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que il faut interdire l'abaya? Je pense que c'est pas une question de laïcité, c'est une question de culture. C'est est-ce que l'abaya ou tous les vêtements ou le voile ou tous les vêtements issus le monde islamique sont français? Est-ce que c'est quelque chose qui appartient à notre patrimoine, à nos habitudes, à nos traditions, etc.? La réponse est non. En tout cas, c'était pas le cas avant et par la pression de l'immigration, c'est en train de le devenir. Et on est à un moment de bascule, en fait. On invoque la laïcité pour l'interdire, mais en réalité, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut que demain, que ce soit une tenue française, la baya, que le voile soit un vêtement français, etc. Je ne parle pas de la question, c'est pas est-ce que les musulmans peuvent porter le voile ou pas, c'est est-ce que, en fait, on s'imagine dans la carte postale française, pardon, que le voile a sa place. Moi, je pense que non. Je pense que j'ai rien contre le fait que des gens pratiquent l'islam, etc. Mais j'aimerais qu'ils le pratiquent à la française. J'aimerais qu'ils vivent à la française comme ça a toujours été le cas. Et c'est ça la question qui est posée. La laïcité, en fait, c'est un prétexte qui est invoqué ou c'est un moyen qui est utilisé, notamment par Gabriel Attal et par tout, d'ailleurs, toutes nos élites. Mais je pense que c'est pas la vraie question. Et donc, je prends la même chose.
Est-ce que la vraie question, c'est la chrétienté est un danger?
Est en danger, vous voulez dire?
En danger.
En tout cas,
avec le développement que vous venez de faire.
J'allais répondre à votre question. C'est en fait, la France est un pays chrétien. C'est un pays laïque aussi depuis 1905, mais c'est un pays chrétien. En tout cas, ses racines sont chrétiennes.
Et le patrimoine, les églises.
Et voilà.
Bien sûr.
Et en fait, c'est cohérent pour moi de la part d'un président de la République de vouloir sauver les églises, parce que si elles disparaissent, ce sera plus vraiment la France. Et c'est cohérent pour moi que le président de la République s'affiche à côté du pape, qu'il se signe ou pas, qu'il communie ou pas, qu'il participe à la célébration ou pas. Je pense que c'est absolument cohérent. Ça ne me choque pas. En tout cas, ça n'est pas en rupture avec ce qu'est la France. La baïa est en rupture avec ce qu'est la France. Laïcité ou pas, en fait.
Mais la difficulté que vous avez, et que d'ailleurs qu'un débat de fond en France, aujourd'hui c'est un pays, comme d'autres, qui est en train de devenir un pays multiculturel. Et donc ce multiculturalisme, il n'est pas facile à adresser, parce qu'effectivement nous avons une matrice d'État-nation extrêmement puissante, avec une logique de laïcité qui s'est construite contre l'emprise de l'Église catholique. On voit ça aujourd'hui, mais ça a été extrêmement dur. Enfin, après 1905, pour le contrôle des églises, il y a eu des bagarres, des morts. Enfin, ça a été extrêmement violent. Bon, donc finalement, c'est la guerre de 14-18 qui un peu rénove tout ça, puisque finalement, l'Alsace-Lorraine, quand on le récupère en 1918, on n'étend pas la loi 1905 à l'Alsace-Lorraine, parce que justement, on a considéré qu'on avait pacifié le débat de la loi 1905. Donc vous êtes dans un...
En 10 ans, c'est ça qui est intéressant.
Oui, en 10 ans seulement. Oui, mais parce que la guerre dans les tranchées, comme les Bretons par les Français dans les tranchées, finalement, la boucherie 14-18 a tellement, finalement, été une marmite fusionnelle du peuple français que du coup, en sortant, on a voulu que ça se passe bien, si je puis dire. Bon. Ouais. Donc là, vous êtes dans une logique multiculturelle avec des gens qui arrivent de tous horizons et qui sont dans une logique d'intégration par le travail, par les mariages mixtes et tout ça. Parce que, par exemple, on est un des pays en Europe, dans le cadre des logiques migratoires, dans lequel il y a plus de mariages mixtes, beaucoup plus qu'aux États-Unis, même si aux États-Unis, j'ai vu que ça se mettait en place.
Mais pas assez.
Donc, pas assez, parce que pourquoi vous avez aussi des ghettos? La logique des ghettos, quand vous avez 400 ghettos en France, c'est sûr que, et ce qui arrange tout le monde qui est des ghettos, enfin, pendant longtemps, ça arrangeait tout le monde, comme disait Claude Dillin, le maire de Clichy-sous-Bois, il dit en France, il y a 400 ghettos, ça arrange tout le monde. Bon, au bout d'un moment, on se rend compte que d'avoir des ghettos, ça finit par générer beaucoup de problèmes. Donc la difficulté que nous avons, c'est dans cette logique multiculturelle, vous avez ça. Par ailleurs, derrière l'histoire de la baïa, c'est aussi parce que, mine de rien, bien sûr, les jeunes filles qui le portent, ils n'ont pas obligatoirement la logique du wahhabisme et de ça, dont vous avez aussi des logiques identitaires qui sont, mais après, derrière, il y a ce travail-là. En Algérie, pendant longtemps, il n'y avait pas d'abaya. Enfin, tout ça, c'est un vêtement, c'est pas un vêtement islamique, c'est un vêtement de la péninsule arabique qui s'est diffusé à travers le Qatar, à travers les investissements de l'Arabie saoudite dans la logique musulmane. Là, la logique, ça vaut quand même le coup par rapport à ça, c'est que autour de la loi de 2004, qui s'est quand même plutôt bien installée, je pense que la baïa permet aussi d'être intégrée. C'est-à-dire que l'école, jusqu'à 18 ans, après, à l'université, les gens s'habillent comme ils veulent, enfin, dans la rue, chacun ça fait comme il veut. Mais jusqu'à 18 ans, eh bien, nous avons intérêt à ce qu'il n'y ait pas de signe religieux manifeste. Or, aujourd'hui, c'était utilisé comme pour montrer qu'on a une identité musulmane. Donc,
la baïa permet de s'intégrer, pardonnez-moi Philippe Doucet,
la baïa permet de montrer une identité musulmane dans une école. Vous voyez, c'est ça l'enjeu qu'il y a derrière. Donc, puisque je ne peux pas porter le voile, finalement, je porte la baïa pour montrer que dans l'école, je suis toujours musulmane. Donc vous avez cette logique-là. Mais après, vous avez un frottement. Vous avez un frottement entre une société...
C'est tout le débat qu'on a eu ces derniers jours et ces dernières semaines autour de la baïa, et ça va à l'encontre de la laïcité.
Oui, mais moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Moi, je pense que ça peut rentrer dans le cadre de la 2004. Le Conseil d'État a donné ses premières conclusions. On verra la suite. Je pense que ça va rentrer dans les signes religieux à l'école, exclus depuis la loi de 2004.
Exactement.
La difficulté que vous avez par rapport à ça, c'est que vous avez un frottement entre une société qui a été matricée par le christianisme et qui, en fait, aujourd'hui, Il doit y avoir 5% de missalisants hebdomadaires, même à Pâques, un peu plus de monde. Mais enfin, ça s'est beaucoup chuté. Les mariages religieux ont beaucoup chuté. Donc, une société qui est majoritairement sortie de la religion, même si elle est dans une matrice chrétienne, et des gens qui sont dans la religion, qui sont dans l'islam. Et c'est choc-là qui va durer.
Il y a une attrition, c'est incontestable. Quelques minutes encore pour évoquer un autre sujet. J'aimerais vous entendre sur les déclarations et notamment ce qu'est en train de mettre en place Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui a présenté ce matin une série de mesures pour renforcer la maîtrise de l'écrit à l'école, puisqu'il déplore qu'il y ait une baisse de niveau. Le ministre parle même d'une urgence républicaine, alors que près d'un élève sur trois ne sait pas lire ou écrire convenablement lorsqu'il entre en sixième. On écoute le ministre.
L'objectif, c'est bien d'élever le niveau général de nos élèves, dans un contexte où, on le sait, on a encore du chemin à faire, notamment sur les savoirs fondamentaux. Il y a aujourd'hui près d'un élève sur trois qui entre en sixième sans maîtriser pleinement le français et les mathématiques, la lecture, l'écriture, le calcul. Moi, je crois à l'importance de l'écrit, et je vais plus loin, de l'écriture, y compris de l'écriture créative. La dictée est essentielle parce qu'elle nous permet de mesurer le niveau en orthographe et puis surtout de faire progresser sur l'orthographe et la graphie, mais l'écriture de fiction, de récits imaginaires, elle est essentielle pour développer l'esprit critique et l'imagination de nos élèves.
Et le ministre veut notamment inviter les élèves, mais également les professeurs, les enseignants, à se lancer dans l'exercice des rédactions pour cette écriture fictionnelle. Y a-t-il véritablement à l'école aujourd'hui une urgence républicaine, comme le disait le ministre notamment dans Le Monde aujourd'hui, Geoffroy Lejeune? Et est-ce que l'éducation peut régler beaucoup de problèmes, les problèmes que nous traversons aujourd'hui dans la société notamment?
Je vais renverser votre question. Je pense que sans l'éducation, on ne réglera aucun problème. Le drame de l'éducation, c'est que ça prend une génération, en fait. C'est-à-dire, je ne veux pas faire prendre de gros sabots, mais c'est un bon exemple quand même. Les émeutiers qui étaient très jeunes et qui sortaient de l'école en réalité du mois de juillet, si on voulait éviter qu'une génération entière ou presque se retrouve dans la rue à brûler des écoles, des mairies, à brûler des voitures et à frapper des gens qui n'ont rien demandé à personne, ça passe forcément par l'éducation des parents. Et l'éducation nationale, évidemment. Et pour moi, c'est une question d'autorité, en effet, de savoirs fondamentaux, enfin, c'est capital, c'est essentiel. Et le problème, c'est que moi, je suis très heureux, en fait, des prises de parole de Gabriel Attal. Je pense qu'il remet l'église au centre du village, il n'invente pas grand-chose, mais...
Oui, là, il utilise les vieilles méthodes d'il y a 20 ans.
Mais on lui demande rien
maths,
de plus.
Le bien français, sûr. L'écriture, l'orthographe, quoi.
Comme quoi, c'était pas compliqué.
Ouais. Mais non.
En fait. Il n'est pas allé chercher très loin, mais ça fait un bien fou d'entendre ça, en fait. Ouais. Et je lui souhaite de réussir, j'espère de tout mon cœur qu'il réussira. Mais même s'il réussit, on aura les fruits de cette réussite dans 15 ans.
Tout ce qui a été fait donc en matière d'éducation, d'innovation, les textes à trous dont il a parlé et qui vont être supprimés, et toutes les autres idées, parfois un petit peu farfelues, sont à jeter aux orties, Philippe Doucet ?
Oui, enfin moi là-dessus...
On revient aux fondamentaux là.
Oui, mais moi, de toute façon, faut voir l'étendue de l'illettrisme en France, parce que c'est quelque chose qui est caché, parce que les gens ont honte et tout. Mais moi je le vois dans mes contacts au quotidien. Quand les gens, plutôt que de vous faire un petit SMS, je dis, tu me fais un SMS, qui vous font un vocal. Vous voyez, donc, parce qu'ils disent, bon là, Philippe, il va voir qu'il y a beaucoup de fautes, et ça. Donc, des gens qui vous disent, par exemple, moi, je vois, on a dans une des associations que je porte, écrivain public. Il faut voir le monde. Alors, un, il y a la mécanique administrative où les gens sont perdus, mais c'est aussi comment je fais un courrier. Vous voyez, donc des choses simples comme ça. Donc du coup, évidemment, comme c'est un handicap, les gens le cachent, ils contournent, ils appellent. Bon, mais vous avez ça. Donc effectivement, lire, écrire, compter, c'est des savoirs fondamentaux. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas les savoirs fondamentaux dans ce qu'est l'évolution de la société, si vous avez les compétences éducatives, c'est l'enjeu majeur. Parce que dans la compétition mondiale telle qu'elle est la compétition en Europe, aujourd'hui, vous avez un gamin sur cinq qui sort du système éducatif avec rien.
Que ça veut dire que ça l'exclut de fait de la société.
Mais bien sûr, parce que derrière, partout, vous allez faire une lettre de motivation, partout vous allez avoir un entretien. Vous voyez, moi je suis frappé, par exemple, le succès des concours d'éloquence, ça s'est mis en place dans les lycées, j'ai vu sur Argenteuil, j'étais dans un jury. Mais je trouve ça génial, parce qu'à un moment donné, l'éloquence, vous allez faire la compétition, mais quand vous allez passer un entretien d'embauche, Vous allez parler avec la recruteuse ou le recruteur, donc vous avez besoin de vous exprimer. Donc quand vous avez des gens qui sont pas à l'aise, qui sont tout coincés parce qu'ils n'ont jamais pu s'exprimer, ou quand vous avez à écrire, quand vous avez... Et même dans l'évolution, moi j'ai vu des gens qui n'avaient pas le niveau de maîtrise du français d'un point de vue professionnel, ils se trouvaient bloqués parce qu'à un moment donné, faut faire une note, faut l'écrire la note. Donc que vous l'écriviez à la main, au stylo ou sur l'ordinateur, il faut formaliser un document. Ça, c'est absolument indispensable.
Cela doit devenir, ce que Gabriel Attal est en train de mettre en place, Geoffroy Lejeune, cela doit devenir une cause nationale, au même titre, par ordre d'importance que...
On ne peut pas laisser l'éducation nationale continuer à couler comme ça. Des profs qui ne sont pas là, des gens qui sortent de l'éducation nationale.
Au même titre que le pouvoir d'achat, par exemple.
Des profs pas payés. Là, je ne sais pas, je disais, il manque encore 200 profs devant les élèves, les fournitures scolaires à payer. Enfin,
sur la
bande donnée, il faut réussir ça.
En 30 secondes,
en fait, c'est une cause nationale. C'est vraiment une cause nationale. Et le problème de notre pays, c'est qu'on a beaucoup de causes nationales. Parce que vous avez cité le pouvoir d'achat, mais on a parlé tout à l'heure d'immigration, puis il y a la sécurité, il y a l'hôpital. Enfin, je veux dire, la santé, tout, il y a beaucoup de causes nationales. Moi, ce que je trouve terrible, c'est qu'en fait, on a pensé que tout ça ne nous serait jamais enlevé. On a pensé qu'on avait la meilleure école du monde. Et à un moment donné, on s'est dit, tiens, comment on pourrait faire encore mieux? On va être encore plus inclusif. On va ouvrir l'école à d'autres choses, des nouvelles méthodes, du pédagogisme, etc., etc. Et en fait, à la fin, vous vous rendez compte qu'avoir supprimé le lire, écrire, compter dont vous parliez tout à l'heure, ça a mis en difficulté, dans une difficulté énorme, beaucoup d'élèves, et notamment les plus pauvres d'entre eux. Et ça, c'est terrible. C'est un crime.
On est une des écoles les plus inégalitaires.
Ouais.
C'est un problème qui, non seulement elle réduit pas les inégalités, mais elle les augmente. C'est quand même un truc de fou.
Je vous félicite, vous êtes bien disputé. C'était très intéressant, mais avec le respect qu'il se doit, évidemment, et qui s'impose et qui vous accompagne. Merci beaucoup, Philippe Doucet.
Merci
Geoffroy Lejeune.
Merci beaucoup.
On continue, évidemment, sur CNews avec Julien Pasquet dans quelques instants. C'est Soir Info, et à demain.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.